Vous écoutez RTL.
Quand on a des doutes, on peut pas faire son deuil. On sait que Michael est parti depuis maintenant 16 ans. Mais si on pouvait savoir ce qui s'est passé, ça pourrait nous apaiser un peu.
Bonsoir, 19 ans que les parents de Michael jouissent, attendent une réponse simple à une question tout aussi simple mais terrifiante. De quoi est mort leur fils de 25 ans à l'été 2002 ? Accident, comme l'affirment sans certitude les experts, ou crime, une hypothèse que rejette la justice. Et ce, en dépit des éléments troublants qui n'ont cessé d'émerger dans ce dossier. Un corps qui aurait pu être transporté, une victime qui aurait été rhabillée, dont plusieurs dents ne seront jamais retrouvées, un témoin oublié, autant d'incohérences, de bizarreries qui n'ont pourtant jamais retenu l'attention des enquêteurs et des juges. Le procureur général de la cour d'appel d'Angers a ainsi rejeté tout récemment une dernière demande visant à rouvrir le dossier. À ce jour, la mort du jeune footballeur amateur Michael Jouys est une affaire classée et peu importe au final qu'elle demeure sans réponse. C'est sur cette mort inexpliquée que nous allons nous pencher ce soir. Michael Jouys a-t-il fait une chute mortelle ou est-il la victime d'une mauvaise rencontre? Pourquoi la justice ne veut pas réexaminer l'affaire? Le dossier peut-il rebondir? Avec nos invités, parmi lesquels les parents de Michael Jouys, nous allons éclairer cette étrange affaire, un jeu de cache-cache avec la vérité.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et ce soir donc dans l'heure du crime, la mort inexpliquée de Michael Jouys à l'été 2002 dans le Maine-et-Loire. Affaire qui commence par la disparition d'un jeune homme qui n'a jamais fait parler de lui. Le lundi 17 juin 2002, Marc et Marie-Joseph Jouys, un couple qui habite la Varenne, une petite commune entre Nantes et Angers, vient signaler à la gendarmerie la disparition de leur fils, Michael, âgé de 25 ans. Il n'a plus donné de ses nouvelles pendant tout le week-end et surtout, il ne s'est pas présenté lundi à son travail dans l'entreprise d'outillage qu'il emploie à Ancenis. Marc Jouys explique qu'il a vu pour la dernière fois Michael le samedi. Aux alentours de 16h, il est était alors chez Jérémy, l'un de ses meilleurs amis. Ce samedi soir, Michael avait prévu de retrouver la plupart de ses potes, avec qui il joue notamment au football, à une fête intervillage sur les bords de Loire. Plus précisément, au lieu dit Chapoing, où le fleuve forme un bras mort. Les gendarmes commencent à se renseigner. Il apparaît que Michael était bien présent à cette fiesta, réunissant une cinquantaine de jeunes et qui s'est terminée vers 3 ou 4 heures du matin autour d'un barbecue. Sans surprise, tout le monde a beaucoup bu, Michael y compris. Comme bien d'autres, il a pris quelques verres au café du coin, le Lion d'Or, avant de participer aux festivités. Ceux qui l'ont vu indiquent qu'il était alcoolisé, mais pas au point de s'écrouler. Il avait demandé à une de ses copines, Vanessa, de le ramener chez lui une fois la fête terminée à 2h. Elle ne l'a pas trouvé et est partie sans lui. Les gendarmes sont préoccupés par cette disparition car Michael n'est pas vraiment du genre à ne plus donner de nouvelles. Il travaille et il a plein de projets en cours. Ce 17 juin, il devait emménager dans un appartement, une colocation. Il avait prévu également de se rendre en Roumanie pour les vacances d'été avec un groupe d'amis. Les enquêteurs fouillent les bords de Loire, une équipe de plongeurs scrute le bras mort du fleuve, une boire, comme on appelle ici ce genre de lieu. Rachel, une participante à la fête, témoigne l'avoir croisé à cet endroit autour de 3h du matin. Il était ivre comme la plupart des fêtards. Elle a pensé qu'il rentrait chez lui. Un hélicoptère survole le coin et les méandres du fleuve. Une battue réunissant 200 personnes est organisée. Les proches et la famille de Michael Jouys arpentent à plusieurs reprises le secteur. Ils essaient de reconstituer le chemin que le jeune homme aurait pris dans l'hypothèse où il aurait voulu rejoindre son domicile à pied. La voiture de Michael n'a effectivement plus bougé depuis samedi de chez Jérémy où elle était stationnée. Personne n'y a touché. Les recherches vont se poursuivre pendant plusieurs jours. Un ratissage méthodique, mais aucune trace du disparu. Michael reste donc introuvable dans ce lieu où la Loire est omniprésente. Il se pourrait qu'il soit tombé à l'eau. C'est l'hypothèse la plus vraisemblable. C'est pourtant à un tout autre endroit qui a déjà été exploré qu'il va réapparaître. Ce 25 juin 2002, en fin de matinée, la présence d'un cadavre est signalée au lieu dit la Haute-Sauzée, à la Varenne, à proximité d'une station d'épuration. Le corps est celui d'un jeune homme de corpulence menue. Il repose face contre terre en bas d'un talus. Les deux gendarmes présents sur les lieux ont aussitôt gelé la scène afin que celle-ci ne soit pas modifiée. La première médecin appelée sur les lieux constate le décès. Elle est aussitôt frappée par deux détails. Un état de décomposition du corps très avancé. Tout d'abord, la peau de la victime est extrêmement sombre. Et le fait que le pantalon et le caleçon de cet homme soient abaissés jusqu'aux chevilles. Des photos d'identification criminelle sont effectuées. Elles montrent des détails qui ne vont pas figurer dans les procès-verbaux, mais qui vont par la suite beaucoup intriguer la famille. Notamment le fait que le jean et le caleçon soient tous deux enfilés à l'envers, comme si le jeune homme avait été maladroitement rhabillé. Pour le moment, le corps est transporté à l'Institut médico-légal régional afin de réaliser une autopsie. Dans le jean de la victime est retrouvé un étui de carte de crédit, une carte bancaire au nom de Michael Jouy, des relevés bancaires ainsi qu'une somme de 70 euros. Les premières constatations indiquent que le jeune homme avait 1,23 g d'alcool dans le sang au moment du décès, mais n'avait pas consommé de stupéfiants. En l'état, rien ne permet d'établir la présence d'une grosse lésion ou d'ecchymose. Mais les légistes restent prudents. L'état de putréfaction avancée ne les autorise pas à être formels. Les parents de Michael Jouy sont prévenus de la découverte du corps. Le choc est immense. Ils ne sont curieusement pas informés du fait que leur fils était en partie dénudé. Ils ne l'apprendront que plus tard et s'en étonneront auprès du magistrat instructeur. Très vite, la famille émet des doutes quant à l'endroit où a été retrouvé Michael. Trois hommes, dont Jacques Jouy, l'oncle de la victime, avaient ratissé le secteur quelques jours auparavant. Ils avaient enjambé des barbelés pour se rendre à la station d'épuration, avaient examiné les lieux mais n'avaient aperçu aucun corps. Le 21 juin, une équipe de dératisation avait travaillé à la station d'épuration de la Varenne. Un opérateur avait passé 10 minutes sur place mais n'avait rien noté d'anormal. Les enquêteurs établiront que cet homme-là, où il était situé, n'aurait pas pu apercevoir le corps. Il n'en reste pas moins que la famille doute. Et si Michael n'était pas mort sur place ? L'enquête va se poursuivre et ne pas apporter de nouveaux éléments. Les gendarmes qui étudient trois hypothèses, crime, suicide ou accident, privilégient la dernière. 5 mois après la mort de Michael, le parquet d'Angers classe l'affaire. Sans suite. Après le classement sans suite du dossier Michael Jouy, 18 novembre 2002, ses parents vont demeurer longtemps dans l'incompréhension. Impossible d'accepter pour eux qu'une simple soirée arrosée et une chute qui plus est sans trace de choc ait pu causer le décès. Décès qui demeure d'ailleurs inexpliqué, l'état du corps ne permettant pas aux experts de se prononcer clairement. Début 2006, les parents décident de se porter partie civile. Un juge d'instruction est alors désigné. L'enquête redémarre et porte désormais sur des faits d'homicide volontaire. De nouvelles vérifications sont entreprises, relevées d'empreintes et d'ADN, notamment sur les vêtements que portait le jeune homme lors de sa découverte. Si rien ne semble avoir été dérobé, les clés de la voiture de Michael demeure introuvable. Les parents obtiennent du juge un transport sur les lieux, les abords de la station d'épuration, afin d'essayer de mieux comprendre comment serait mort Michael. L'examen médical additionnel, pas d'exhumation, en fait une étude des pièces existantes, exclut une mort d'origine criminelle sans véritablement trancher. Peut-être une mort d'origine toxique alors que rien n'a été décelé dans les viscères, ou peut-être une mort naturelle, même si Michael, sportif accompli, ne souffrait d'aucune pathologie. La famille se voit refuser une contre-expertise. Les parents attirent également l'attention du juge sur les déclarations troublantes d'un jeune homme du coin. Celui-ci aurait plusieurs fois répété avoir causé un mystérieux accident avec sa voiture. Il aurait évoqué Michael Jouy, indiquant qu'il avait eu les cervicales brisées. Ce témoin est entendu par les services de gendarmerie. Il indique qu'il n'était pas invité à la fête sur les bords de Loire. Il est confus. Il raconte qu'il blaguait. Il n'a fait que répéter ce qui se disait partout sur la mort de Michael. À propos de l'accident qu'il a évoqué, il dit qu'il s'est fait un film, qu'il a imaginé cette scène. Il ne pense pas avoir percuté qui que ce soit avec sa voiture. Devant le juge d'instruction, ce témoin répète qu'il a fantasmé. Il ajoute qu'il entend des voix et a conscience qu'il souffre d'un trouble mental. La justice dira qu'il n'est pas question d'envisager la mise en examen d'un homme qui a des hallucinations auditives et répand, je cite, « une vague rumeur publique totalement dénuée de fondement ». Malgré ces anomalies et ces interrogations, l'enquête sur la mort de Michael est classée sans suite le 20 décembre 2010. Non-lieu prononcé par les juges. La famille va alors se lancer dans un long combat judiciaire. 10 ans après le classement sans suite de l'affaire Michael Jouy, l'une des avocates de la famille, maître Alexandra Nokovic, dépose un mémoire auprès du procureur général d'Angers pour demander la réouverture du dossier. Dans cette requête, la partie civile recense toutes les questions demeurées sans réponse. Il est fait état à nouveau du pantalon et du caleçon enfilés à l'envers et découverts tel quel sur le corps de la victime. Il est également rapporté qu'il manquait pas moins de 8 dents dans la bouche de la victime. Le légiste n'a rien noté à ce sujet. Aucune de ces dents n'a été retrouvée, ni sous la tête de Michael, ni dans les alentours. Or, la découverte de ces dents serait capitale. Cela permettrait peut-être de mettre en lumière des violences, jusqu'alors invisibles, qu'elles soient d'origine volontaire ou accidentelle, précise la demande. Pour les avocats, maître Nokovic et Billot, l'absence des dents pourrait être la preuve que le corps a été transporté et déposé par une tierce personne. Michael Jouy ne serait pas mort ici. La réponse du procureur général d'Angers ne tarde pas. 20 jours seulement après la demande de réouverture, le magistrat fait savoir qu'il n'y aura pas de nouvelle enquête. À nouveau, la porte se referme sur le dossier de la Varenne. La justice ne croit toujours pas à la piste criminelle, mais ne livre aucune conclusion digne de ce nom. La mort de Michael n'a à ce jour toujours pas croisé le chemin de la vérité. La mort, trop vite et trop longtemps oubliée, de Michael Jouy. Espérons que la vérité puisse enfin apparaître, ne serait-ce que pour apaiser ses parents. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Vivian Lecuivre à la réalisation, et puis un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir cette heure du crime.